France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Ventre Dieu, au Moyen-Âge, le blasphème file droit. Comment, dans la France médiévale, le blasphème est-il passé du statut de simple péché à celui de crime ? Jarny Dieu, c'est une histoire édifiante qui commence par un simple juron pour lequel on reçoit de la boue dans les yeux. Mordieu, un nouveau juron, bah tiens, voilà, passage au pilori. Puis l'on enchaîne avec la lèvre fendue au fer chaud et enfin la langue coupée avant, pourquoi pas, se rendre au bûcher pour y être brûlé vif. Sacre Dieu.
Voilà l'argument décisif contre l'hérésie des manichéens.
Citoyennes et citoyens, nous vous convions à participer à cette œuvre de réparation et de vérité.
Les plaisanteries des libertins devinrent vite objet de scandale.
Le roi aimait tant Dieu et sa douce mère qu'il faisait punir tous ceux qu'il pouvait convaincre d'avoir dit à leur sujet des choses déshonnêtes et de vilains jurons.
Vérité, qu'on vous jette !
Oh, 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 ça va, oui ?
Ah ouais, je m'étais assoupi.
Et ce mauvais parler n'a presque plus cours.
N'a presque plus cours, mais on en entend parfois qui disent encore des gros mots. Bonjour, Corinne Leveux-Letexera.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire du droit à l'Université d'Orléans, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, et vous êtes l'autrice, entre autres, de La parole interdite, le blasphème dans la France médiévale, du péché au crime. En fait, aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, vous allez nous raconter comment a été inventé un crime, on pourrait le dire comme ça.
Exactement. Comment le droit s'est saisi de ce péché de langue et comment le roi de France en particulier en a fait une arme politique de première importance.
C'est quoi le blasphème ?
Je ne sais pas. c'est une question piège. Alors en fait, il semblerait que même les médiévaux eux-mêmes aient eu du mal à définir la notion, puisqu'en fait on n'a pas de définition réellement générale qui permette de ramasser l'ensemble des paroles qui sont comprises dans l'infraction de blasphème. On a même des définitions qui ont considérablement varié. Et il m'est apparu, mais ce que je dis là n'a rien de révolutionnaire, il m'est apparu qu'à la fin de la fin, le blasphème, c'est ce qui est considéré comme un blasphème. Mais il n'existe pas au départ, il est jugé blasphématoire, notamment puisqu'on est là pour parler de droit, par des magistrats, qui vont dire que telle parole, telle expression est blasphématoire. Mais il est difficile, a priori, de déterminer ce qui est ou ce qui n'est pas blasphématoire.
Oui, ce que vous dites là, c'est vraiment au cœur de la réflexion, c'est de savoir qui décide que ici il y a eu ou pas blasphème. Absolument. Et c'est là où le magistrat entre en scène. C'est très important parce que dans le blasphème, il y a un souci, c'est que la personne concernée ne peut pas se plaindre en soi. Si on a été victime d'un vol, bah on peut aller se plaindre parce qu'on a été victime d'un vol, mais la personne ici insultée, c'est Dieu.
Voilà, Dieu, ses saints qui par construction sont décidés, la Vierge, effectivement c'est ce qu'on peut appeler un crime sans victime, en tout cas sans victime directe, et donc un crime symbolique, puisqu'en fait ce que l'on va chercher à réparer, c'est l'honneur de la divinité qui effectivement ne peut pas venir porter plainte par elle-même. Donc il faut qu'il y ait des médiateurs, il faut qu'il y ait des personnes ou des institutions qui se fassent le relais de l'honneur offensé de Dieu, de Jésus, de la Vierge, des saints, et qui vont déclencher donc une action. Donc ça suppose en fait un certain degré déjà de construction juridique.
Et dans le droit, il y a le droit des personnes, le droit laïque, et puis il y a le droit religieux. Là, on a envie de dire, avec le blasphème, on est dans le domaine du religieux, l'Église doit s'en charger.
Alors, c'est la théorie. En fait, en pratique, ce sont les législations laïques qui ont été les plus répressives. Et c'est l'une des particularités de ce crime, précisément, c'est que il a fait l'objet d'une double poursuite, de double criminalisation de la part de l'Église, mais surtout de la part des monarchies européennes et en particulier de la monarchie française. Alors, dans un cadre qui s'explique, évidemment, hein, il y a des raisons qui sont des raisons politiques et aussi des raisons personnelles. Mais pour autant, incontestablement, les législations laïques ont été plus dures que les législations canoniques ecclésiales.
Oui, parce que là, vous allez nous expliquer comment un crime a pu être inventé, celui du blasphème. Il faudrait aussi peut-être réfléchir au mobile et vous nous donner la piste ici de réflexion. Le mobile, c'est parce que les monarchies ont besoin peut-être d'avoir une arme pour condamner. C'est pratique le blasphème.
Alors c'est pratique, effectivement. Alors comme on l'a vu dans l'émission d'hier, en fait, pendant très longtemps, on a plutôt laissé à la divinité le soin de se charger elle-même de sa propre vengeance. Et dans la deuxième partie du Moyen-Âge, il y a vraiment une volonté de récupérer en fait cette infraction qui n'est pas encore constituée en tant que telle pour en faire un outil de construction politique. Alors, dit comme ça, ça a l'air très simple. Évidemment, dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un processus qui a pris un petit peu de temps. Mais en gros, il y a deux moments d'accélération. Il y a d'abord un premier moment à la fin du XIIe siècle. On est, alors pour ce qui concerne la France, à peu près sous le règne de Philippe Auguste. On a un premier moment qui est un moment important. Pourquoi ? Parce que d'une part, les théologiens, il faut quand même un peu parler des théologiens, on va beaucoup parler des juristes, mais il faut dire un mot quand même sur les théologiens. Les théologiens ont attiré l'attention sur ce qu'on appelle les péchés de la langue, en considérant que la langue produisait un certain nombre de comportements, d'attitudes qui étaient en soi condamnables. Alors, c'est pas seulement le blasphème, hein, ça peut être également l'injure, même le murmure, le bavardage, le faux témoignage, enfin toute une série de conduites qui apparaissent singularisées par rapport à d'autres conduites qui engagent par exemple le corps, la violence qui n'est pas verbale par exemple. Et donc les théologiens mettent l'accent sur ce type d'infraction liée au langage. Ça c'est vraiment un processus qui se fait à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. Et Philippe Auguste lui-même, donc le grand roi de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, prend une première ordonnance contre les blasphémateurs qu'on a perdu, mais dont on sait qu'elle a existé parce que son principal biographe, qui s'appelle Rigord, la cite. Il dit le roi a pris une loi nouvelle, lex novella, une loi nouvelle valable pour tout le royaume contre les blasphémateurs. Donc on a un premier indice ici d'une préoccupation de la monarchie française à l'égard de ce qui n'est pas encore constitué comme un crime et qui est le blasphème. Et ça, c'est très intéressant parce que Philippe Auguste, c'est pas n'importe quel roi, c'est un des rois qui a le plus augmenté le domaine royal et surtout un roi qui commence déjà à avoir, comme son nom l'indique, des prétentions, on va dire, à la souveraineté, en tout cas qui pense le royaume sur un mode qui est nouveau par rapport à ses prédécesseurs, qui étaient plutôt engagés, eux, dans des luttes féodales. Donc avec Philippe Auguste, on a une première rupture, et puis la deuxième grande rupture, le deuxième grand moment important, c'est le règne de Louis IX, c'est le règne de Saint-Louis, où là on passe dans une toute autre dimension.
Ah oui, parce que ici nous avons notre succession de souverains qui se présente avec Philippe Auguste. On est à la toute fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle, et l'idée de condamner de la part du roi le blasphème, quand vous évoquiez l'idée que dans l'émission Le cours de l'histoire, le blasphème selon les religions, retour au texte, ce blasphème devait être dans les textes, dans la Bible, mais c'est valable aussi dans le Coran, et quand je dis Bible, c'est la Bible hébraïque et chrétienne, c'est Dieu qui peut se charger de punir les blasphémateurs. Ici, nous voyons cette transition qui s'est opérée en fait lentement au fil du temps. Est-ce que la christianisation très lente depuis l'Empire romain jusqu'à ce qui nous intéresse ici au Moyen-Âge permet de comprendre comment l'imbrication entre la religion, le pouvoir fait que des considérations religieuses, théologiques, le blasphème par exemple, ont été prises en charge par le pouvoir comme un processus de légitimation? On a tellement besoin d'avoir l'aval divin que on se charge désormais des questions qui autrefois étaient religieuses.
C'est exactement ça en fait. C'est ça qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on a appelé la sur-christianisation du royaume de France. Le fait que le roi, c'est un roi très chrétien, c'est un roi qui est sacré, et ça c'est très important. Alors il n'est pas sacré depuis le XIIe siècle, il est sacré depuis bien avant. Mais en fait, toute la réflexion sur la portée du sacre et le lien particulier que le sacre noue entre le roi de France et Dieu, toutes ces réflexions-là se développent dans la deuxième partie du Moyen-Âge. Et clairement, il y a une prise en charge, vous l'avez tout à fait bien dit, hein, de cette dimension religieuse par le roi. Et le roi, est en cherchant à lutter contre les blasphémateurs, le roi apparaît comme étant le meilleur lieutenant de Dieu sur Terre, comme en étant le gardien de son honneur. Et par conséquent, par contre-coup, en quelque sorte, il y a une légitimation de son propre pouvoir qui se produit, et c'est très net dans la succession des ordonnances. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais aussi dans les moments où ces ordonnances se sont adoptées.
Oui, c'est ça, hein, c'est vraiment contextualiser cette histoire du blasphème, comme toujours en histoire, chaque objet historique doit être contextualisé pour le comprendre. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un mot qui traverse les siècles, mais qui ne couvre pas toujours les mêmes réalités, d'autant que parfois le roi est en odeur de sainteté.
Louis IX, donc, est le petit-fils de Philippe Auguste. Son père est Louis VIII. Sa mère est la fameuse Blanche de Castille. Il était né en 1214. En 1226, la mort prématurée de Louis VIII le fait roi de France. Il hérite d'un domaine royal singulièrement arrondi par son grand-père et aussi, malgré la brièveté de son règne, par son père. Le roi de France est donc beaucoup plus puissant territorialement que ses plus grands vassaux. Cette grande politique, il est clair d'ailleurs que ce n'est pas un roi de 12 ans qui peut l'amener. Sa mère elle-même, malgré les dernières volontés de Louis VIII qu'il avait désigné comme devant exercer le pouvoir royal au nom de son jeune fils, est tout d'abord obligée de se défendre contre une coalition de grands vassaux qui espèrent reconquérir le terrain perdu sous les deux derniers règnes. Elle triomphe de cette coalition. Enfin, lorsque le 25 avril 1234, le roi achève sa 20e année, sa puissance est aussi solide que celle de ses prédécesseurs.
Analyse spectrale de l'Occident en 1959, avec le plaisir toujours d'entendre la voix d'Edmond Pognon, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et puis médiéviste bien sûr, qui évoque ici Saint-Louis. Alors il faut toujours se méfier parce qu'on dit Saint-Louis, donc on lui accole l'étiquette de saint tout de suite, mais lui c'est Louis IX à ce moment-là. Qu'y a-t-il de particulier au moment du règne de Louis IX, Saint-Louis, sachant que vous nous avez dit, Corinne Levelet-Texera, que déjà, Philippe Auguste avait mis en place des ordonnances qui condamnaient le blasphème. Ici, on a une accélération du mouvement ?
Voilà, tout à fait. En fait, le règne de Saint-Louis, appelons-le ainsi, c'est plus simple, par commodité. Le règne de Saint-Louis marque véritablement une accélération, un changement de dimension dans cette histoire. Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison, on va dire, strictement juridique. On est au milieu du XIIIe siècle et le droit s'est considérablement développé et en particulier, il existe désormais des outils qui permettent précisément de s'attaquer à des infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une accusation de la part d'une personne physique. Pour dire les choses très simplement, alors c'est évidemment dans le détail plus compliqué, mais en gros, avant le XIIIe siècle, il était très difficile de s'attaquer à des crimes symboliques. Pourquoi ? Parce que la procédure exigeait qu'il y ait un accusateur qui vienne se plaindre d'un dommage qui lui avait été infligé. Et l'accusateur était absolument indispensable. Il devait même accepter, dans l'hypothèse où son accusation ne prospérait pas, de subir la peine qui était prévue pour l'accusation qu'il avait portée. Or là, sous le règne de Saint-Louis, il y a un changement de procédure qui fait qu'il devient possible pour un juge de s'auto-saisir d'une infraction dont il a connaissance. Donc ça, c'est un premier élément de rupture. Il y a un changement du droit qui permet, en fait, à un magistrat, à un juge, de devenir lui-même le promoteur de l'accusation, pour dire les choses comme ça. Et évidemment, pour le blasphème, c'est très important, puisque, encore une fois, il n'y a pas de victime physique qui va venir se plaindre. Le deuxième élément, c'est la personnalité de Saint-Louis, bien sûr, qui est un roi particulièrement pieux, d'ailleurs son surnom de Saint-Louis en dit quelque chose, et qui va considérer que les blasphémateurs se rendent en quelque sorte complices, par-delà les siècles, des outrages que le Christ a subis à la fin de sa vie. Et par conséquent, c'est une façon de poursuivre la passion du Christ que de commettre un blasphème. Et donc Saint-Louis, dans sa propre religiosité, assume la lutte contre les blasphémateurs comme un moyen, en quelque sorte, de sortir de la passion du Christ et de faire vivre à son royaume une période de bénédiction par Dieu. Et le troisième élément, il est politique. Comme ça a été souligné, le royaume de Saint-Louis, c'est un royaume puissant, bien organisé, bien ordonné. Un certain nombre d'enquêtes menées par le roi ont permis d'étendre l'administration et de la perfectionner. Et donc, on va avoir, sous le règne de Saint-Louis, une multiplication d'ordonnances, enfin au moins quatre, pour celles qui ont été conservées, concernant de manière spécifique le blasphème et construisant ce crime qui, jusque-là, était essentiellement un péché, c'est-à-dire qui relevait de ce qu'on appelle le for interne, c'est-à-dire, pour dire les choses de manière très simple, de la confession au prêtre. Là, le roi dit, eh bien, s'il y a un blasphème, la justice royale doit s'en charger. Et voici les peines qui sont prévues. Et cette législation royale, elle a deux caractéristiques majeures. La première caractéristique majeure, c'est sa précision. C'est-à-dire que on va énumérer de manière presque maniaque, presque folle, les éventuelles récidives en cas de blasphème. La première fois, il va se passer ça. La deuxième fois, il se passera ça. La troisième fois, il se passera ça. La quatrième fois. Et à chaque fois, évidemment, les peines sont plus importantes. Pourquoi c'est fou ? Parce qu'on est au XIIIe siècle. Déjà, aujourd'hui, on a du mal à lutter contre la récidive. Alors, vous imaginez bien qu'au XIIIe siècle, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas d'état civil. C'est très difficile de savoir si une personne est en situation de récidive. C'est quasiment impossible. Donc, cette législation d'une précision et d'une précision telle qu'on a du mal à penser que cette précision ait été appliquée dans les faits. Donc là, on aura l'occasion probablement d'y revenir, mais il y a une dimension idéologique qui est très importante. Donc première caractéristique, c'est la précision. Et deuxième caractéristique, cette législation, elle est constante. C'est-à-dire qu'à partir du règne de Saint-Louis, elle va être répétée de manière extrêmement régulière par tous les rois de France, au moins jusqu'au règne de Louis XIV. Je sais qu'il y a demain une émission sur l'époque moderne, donc vous aurez l'occasion d'investiguer plus précisément sur cette période, mais au moins jusqu'au règne de Louis XIV, tous les rois de France, sans exception, sont intervenus, alors avec référence directe ou pas à Saint-Louis, sont intervenus sur la question du blasphème. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la monarchie française, au moins jusqu'au XVIe siècle, est une monarchie qui est discrète sur le plan pénal. Alors, ça peut probablement étonner vos auditrices et vos auditeurs, mais en fait, d'abord, le roi légifère peu, d'une manière générale, et d'autre part, lorsqu'il légifère, il est très rare qu'il le fasse en matière de droit pénal. Le blasphème est une exception. C'est vraiment une exception parce que on serait embarrassé pour trouver une autre infraction, un autre crime, pour lequel il y a autant d'ordonnances. Donc là, on en a à peu près, moi j'en ai recensé un peu plus de 80, ce qui est, alors aujourd'hui encore une fois, il faut pas réfléchir avec les données de 2025, hein, mais pour l'Ancien Régime, 80 ordonnances sur un seul sujet, c'est vraiment très très important. Donc il y a une forme d'exceptionnalité du blasphème qui doit être soulignée, parce que, encore une fois, ça n'est pas qu'un problème de droit que l'on touche ici. Il y a une dimension juridique, je l'ai indiqué notamment en matière de procédure, mais il y a fondamentalement une dimension politique.
Restons avec Saint-Louis.
Le roi aimait tant Dieu et sa douce mère qu'il faisait punir tous ceux qu'il pouvait convaincre d'avoir dit à leur sujet des choses déshonnêtes et de vilains jurons. Ainsi je le vis mettre un orfèvre de Césarée à l'échelle, en braie et en chemise, les boyaux et la fraissure d'un porc entortillé autour du cou et jusque sous le nez. Le saint roi disait « Je voudrais être marqué d'un fer chaud, à condition que tout vilain jurement disparusse de mon royaume. Je fus bien 22 ans en sa compagnie sans jamais l'entendre jurer Dieu, ni sa mère, ni ses saints. C'est grande honte au royaume de France et au roi quand il le souffre, qu'on n'ouvre jamais la bouche sans dire que le diable y ait sa part. Et c'est une grande faute de langage que de faire dépendre du diable l'homme ou la femme qui appartiennent à Dieu par le baptême. En l'autel de Joinville, celui qui profère une telle parole reçoit un soufflet ou la férule, et ce mauvais parler n'a presque plus cours. »
Jean Negroni qui nous lisait cet extrait de Joinville, chroniqueur du règne de Saint-Louis, avec Corinne Levelet, etc. Quelque chose d'étonnant ici. Blasphème, on peut imaginer des bris de statues, on peut imaginer une procession sur laquelle on crache, mais là, c'est simplement des jurons. Enfin, on le voit, c'est la parole qui est vraiment au cœur de la préoccupation royale.
Alors, c'est la parole qui est au cœur de la préoccupation royale, parce que la parole, elle engage, en fait. Elle engage bien sûr celui qui l'a prononcée. Mais la parole, et on revient à notre conversation du début, elle est surtout perçue par les autres et elle est évidemment entendue par Dieu. Et précisément, le fait de proférer un blasphème peut avoir des conséquences pour ceux qui l'entendent, c'est-à-dire que ça peut provoquer leur émoi, leur scandale, éventuellement les entraîner dans le mal. Donc il y a une possibilité d'imitation, et ça peut surtout susciter la colère divine. Donc la parole n'est pas neutre. Le texte de Joinville, hein, qui est cité, est vraiment très intéressant, parce qu'on voit bien le lien qui est fait avec le baptême. Être chrétien, c'est renoncer au mal, c'est renoncer au diable, Et le blasphème, c'est une façon de donner un coup de canif, en fait, dans ce pacte baptismal, dans cette autoconsécration, en fait, du baptisé à Dieu. Donc, c'est vraiment une porte ouverte sur le diable, hein, une porte ouverte sur le mal, sur les enfers. Et c'est la possibilité pour le royaume très chrétien de basculer du côté obscur, si vous me passez l'expression. Alors, le texte de Joinville, il est très, très intéressant. Alors, il a été, je crois, amputé d'une petite partie parce que, en fait, Joinville cite un autre exemple de punition par Louis IX des blasphémateurs, qui est l'exemple d'un marchand ou d'un bourgeois, je crois, parisien, que le roi a entendu blasphémer et il a ordonné immédiatement qu'on porte un fer chaud sur la bouche du blasphémateur. Il se trouve que c'est l'une des punitions des blasphémateurs prescrites par Saint-Louis. Mais là, Joinville raconte cette anecdote. Joinville était un proche de Saint-Louis, donc il ne va pas critiquer le roi. Mais vous l'avez entendu dans son texte, il dit que lui, quand on blasphème devant lui à son hôtel, il donne une gifle au blasphémateur. Alors, quand on connaît un petit peu Joinville, on sent bien que lui trouve que le roi va trop loin. Il n'est pas le seul à trouver que le roi va trop loin. Parce que le pape Clément IV, qui est un Français, qui est lui-même un juriste, Guy Fouquet, de son nom de jeune fille, j'allais dire. Donc Guy Fouquet, devenu le pape Clément IV, écrit à Saint-Louis en lui disant « Mais il faudrait peut-être vous calmer, vous allez trop loin ». Le pape lui-même estime que le roi de France met trop de zèle dans l'application des punitions à l'égard des blasphémateurs. Alors, ces punitions, quelles sont-elles? J'ai dit qu'elles étaient très précises. Donc, il y a tout un arsenal qui est prévu, qui va des peines infamantes. On en a eu un exemple avec ce malheureux condamné à être échelé, c'est-à-dire à être mis en public, attaché en fait sur une échelle avec des viscères de porc sous le nez. Ça devait être particulièrement malodorant et évidemment, c'est très infamant. Donc, il y a toute une gamme de pratiques infamantes, amendes honorables, pilori qui sont prévues. Mais au bout d'un certain nombre de récidives, il y a surtout l'ablation de la lèvre supérieure, puis l'ablation de la lèvre inférieure. Alors, ça vous fait évidemment un sourire un peu inquiétant. Et à la fin des fins, l'ablation de la langue, ce qui réduit évidemment de manière radicale le problème.
C'est vraiment ambiance figure de Joker ici qui apparaît avec cette idée de récidive et surtout cette répétition des ordonnances. Là, nous étions avec Saint-Louis, donc au XIIIe siècle. On peut faire un petit saut dans le temps, on poursuit l'arbre généalogique et on arrive à Philippe VI. Et là encore, condamnation du blasphème.
Celui ou celle qui de Dieu ou de la Vierge Marie dira ou mal jugera le vilain serment sera mis pour la première fois qu'il lui adviendra au pilori, et y demeurera depuis l'heure de prime jusqu'à l'heure de nonne, et on pourra lui jeter aux yeux boue ou autre ordure, sans pierre ou autre chose qui le blesse, et après il demeurera au pain et à l'eau, sans autre chose. À la seconde fois, si par aventure il lui advenait qu'il rechût, nous voulons qu'il soit au dit pilori, au jour de marché solennel, et qu'on lui fende la lèvre de dessus d'un fer chaud, et que les dents lui apparaissent. À la tierce fois, la lèvre de dessous, et à la quarte, toute la lèvre. Et si par malheur il lui advenait la quinte fois, nous voulons et avons ordonné et ordonnons qu'on lui coupe la langue, si que dorénavant il ne puisse dire mal de Dieu ni d'autre.
Une sentence du roi Philippe VI, nous sommes en 1348, cette lecture de Raphaël Laloum dans le cours de l'histoire, Corinne Levelet, etc., on le sait bien. Plus les lois sont répétées, moins elles sont appliquées, sinon on n'a pas besoin de la répéter. Est-ce que l'on peut dire que c'est le cas aussi pour le blasphème? Parce que souverain après souverain, on a l'impression qu'on répète la même chose et c'est absolument terrifiant à entendre.
Alors, c'est terrifiant à entendre. Deux remarques sur ce texte, qui est un texte important. La première, donc c'est un texte en français, il est question du vilain serment, il n'est pas question du blasphème. Donc ça, c'est une précision que je voulais apporter, qui est qu'en fait, le terme de blasphème, hein, ça a été évoqué d'ailleurs hier aussi dans votre émission, le terme de blasphème est en fait relativement tardif en français. Il apparaît plutôt au XVe et surtout au XVIe siècle. Et avant, on parle de vilain serment. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, le blasphème est sorti en quelque sorte du juron. Donc, c'est une infraction, encore une fois, qui se construit en se criminalisant. Donc il y a un peu comme on prouve la marche en marchant. Donc il n'y a pas de blasphème qui existe avant le crime de blasphème. Le blasphème est issu de la criminalisation du blasphème. Si c'est peut-être pas très clair ce que j'essaie d'expliquer, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est parti du jurement, on est parti d'un mauvais usage d'une parole qui invoque Dieu, donc c'est ce qu'on fait dans le serment. Seulement, dans le serment, on s'engage à juste titre en invoquant le nom de Dieu. Dans le blasphème, on invoque le nom de Dieu, mais pour de mauvaises manières. Donc, ça, c'était pour la question du vocabulaire qui est importante, parce qu'encore une fois, ça montre bien qu'il y a eu une construction progressive de ce crime. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est le règne de Philippe VI. Philippe VI, c'est pas n'importe quel roi, c'est un roi qui est en difficulté de légitimité, puisque, en fait, il arrive un peu par hasard malheureux à la couronne de France, puisque normalement, la branche Valois est une branche cadette des Capétiens. Et il est en compétition avec un autre puissant monarque qui est le roi d'Angleterre. Et vous savez que ça a entraîné la France dans la malheureuse guerre de 100 ans. Alors, l'une des difficultés pour Philippe VI, c'est de faire admettre sa légitimité. Et il l'a fait de plusieurs manières, mais l'une des manières qu'il a utilisées, précisément, ça a été de s'inscrire dans la suite de Saint-Louis et donc de légiférer sur le blasphème à plusieurs reprises et en prenant des dispositions particulièrement rigoureuses. Donc Philippe VI est un des rois qui a le plus légiféré contre le blasphème, précisément parce qu'il était en crise de légitimité, qu'il fallait donc en rajouter en montrant à quel point il était proche de Dieu. Il prenait au sérieux son rôle de gardien du royaume. Oui, les ordonnances répétées sont un signe de mauvaise application. Ça, on va y revenir et c'est vraiment un des constats qu'on peut faire. Pour autant, je voudrais vraiment insister sur ce point. Le but poursuivi par les ordonnances royales, notamment en matière de blasphème, n'est pas seulement d'être appliqué. Il ne faut pas penser que le roi légifère uniquement en se disant « voilà, il faut que ce soit mis en œuvre ». Le roi légifère parce qu'il montre qu'il s'interroge, qu'il prend au sérieux cette question. Parce que ces ordonnances, il faut bien comprendre qu'elles se diffusent, notamment parce qu'elles sont lues à haute voix. Les gens n'ont pas tous accès à l'écriture et à la lecture. Donc il y a des personnes qui vont un peu partout dans les villes et dans les villages, qui vont lire les ordonnances royales à son de trompe et cri public, qui vont donc en faire la communication de façon à ce que les habitants du royaume de France soient en quelque sorte acculturés à cette législation. Ils en prennent conscience, ils la connaissent, et on a des tas d'exemples qui montrent que les gens savent très bien que le roi s'en prend au blasphémateur. Donc, d'une certaine façon, l'un des buts poursuivis par cette législation, c'est tout simplement de montrer que le roi fait quelque chose. Donc, bien sûr, on va y revenir, la question d'application, elle est problématique, mais je ne suis pas certaine qu'on puisse considérer que cette législation soit en échec, parce que la mise en œuvre est difficile, parce qu'encore une fois, le but premier poursuivi est, à mon sens, un but idéologique. Quand vous en êtes à évoquer la cinquième récidive, je parle bien de récidive, c'est-à-dire la cinquième récidive, ça signifie au moins le sixième blasphème, vous ne trouverez jamais, jamais, dans aucune source, un exemple d'un blasphémateur puni pour la sixième fois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que c'est pas possible. En fait, on n'a pas les moyens d'une surveillance aussi fine des individus au Moyen-Âge. Et même à l'époque moderne, ça n'existe pas. Donc, si le roi va jusqu'à ce point de précision, c'est pour faire peur. C'est pour délivrer un discours qui n'est pas simplement un discours visant une application directe.
C'est très clair ce que vous racontez, hein, Corinne Leveux-Letexera, parce que on saisit comment cette histoire de blasphème, c'est une histoire qui est aussi une histoire politique, clairement, hein. On évoque sans cesse le roi, la juridiction royale. Malgré tout, le blasphème, à son origine première, c'est un péché. Dès lors, on peut s'interroger. Et ils font quoi, les théologiens, pendant ce temps-là, Thomas d'Aquin?
Le mot blasphème indique, semble-t-il, une certaine dérogation à la bonté éminente et surtout à la bonté divine. Or, dit Denis, Dieu est l'essence même de la vraie bonté. Par suite, tout ce qui convient à Dieu appartient à sa bonté et tout ce qui ne lui appartient pas est loin de cette raison de parfaite bonté, qui est son essence. Donc, celui qui nie de Dieu quelque chose qui lui convient, ou bien affirme de lui ce qui ne lui convient pas, porte atteinte à la bonté divine. Une telle atteinte peut avoir lieu de deux façons. Tantôt elle a lieu seulement suivant l'opinion de l'intelligence, tantôt il s'y joint une certaine détestation de sentiment.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Anna Holweck, dans le cours de l'histoire, qui nous lisait cet extrait de la Somme théologique de Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin. C'est un contemporain de saint Louis. Hein. Donc ici, au moment où saint Louis condamne le blasphème, mais alors ça c'est vraiment un point de vue juridique, la juridiction royale, on a des théologiens qui réfléchissent. Thomas d'Aquin, il est important dans notre histoire. Pourquoi ?
Il est important parce que c'est l'un des principaux, enfin c'est le principal théologien de l'Église catholique. Hein. C'est celui qui a servi à structurer en fait la pensée théologique médiévale, qui va être ensuite lu, relu, commenté dans les siècles suivants. Et il a porté en fait une synthèse sur la question du blasphème en proposant, alors c'est pas vraiment une définition, en tout cas une réflexion un peu globale. Et comme on l'a entendu, il place le curseur très haut. Il passe le curseur très haut puisque il dit que le blasphémateur s'en prend à la bonté de Dieu. C'est donc dans l'échelle des péchés un péché qui est particulièrement grave. Et il fait même un parallèle avec l'homicide dans le passage de la Somme un petit peu plus loin que ce qui a été lu. Il fait un parallèle avec l'homicide en disant ben bien sûr l'homicide est plus grave pour les effets directs hein, puisqu'il y a une personne qui est morte, mais symboliquement, le fait de s'en prendre à Dieu, bah, c'est plus grave. Voilà, c'est plus grave. Donc, il y a ici une catégorisation du blasphème comme péché majeur, comme péché extrêmement grave, qui coïncide d'ailleurs avec la prise de conscience de Saint-Louis. Donc, on est ici sur une évaluation qui est une évaluation maximum, encore une fois, de la gravité du blasphème. Maintenant, j'en viens à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le défaut d'application. Il faut quand même en dire un mot. Le décalage entre, alors ça c'est vraiment terrible pour un juriste, le décalage entre la norme, et on a vu que ce soit la norme royale ou la norme théologique avec Thomas d'Aquin, et la réalité. Et la réalité c'est quoi ? Ben, la réalité c'est que tout le monde blasphème.
Jarnis Dieu, ventre
exactement.
Dieu.
Exactement. Voilà. Donc on a une réalité. Alors comme on le sait, bah d'abord on a des textes qui nous rapportent des exemples de blasphème. Alors des textes juridiques, mais aussi des textes littéraires. Hein. Et on en a à foison où on prend plaisir à s'amuser de paroles, de dérision parfois assez drôles et avec le rire complice hein, de ceux qui les entendent. Donc pas du tout, ils sont pas du coup choqués et qui trouvent ça amusant. On a aussi dans les ordonnances, hein, on évoquait tout à l'heure le fait qu'elles n'étaient pas appliquées, mais il y a même des ordonnances qui disent, mais oui, bon, alors les ordonnances précédentes, elles n'ont pas été appliquées, mais bon, celle-là, on va quand même essayer de l'appliquer. Donc, il y a même un aveu d'inapplication dans certaines ordonnances. Et puis, quand on regarde les archives judiciaires, ce que j'avais pris le temps de faire, quand on prend les archives judiciaires, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas de condamnation pour blasphème. Et que quand il y en a, alors, j'avais fait une statistique autour de 1 à 2% de condamnations par registre que j'avais consulté. Quand il y en a, c'est rien. C'est-à-dire, c'est une amende. Alors, celui qui n'a pas de chance, il est au pilori. Il va passer quelques heures désagréables sur un pilori à recevoir un peu des tomates. Non, peut-être pas des tomates. Il n'y en a pas au Moyen-Âge, mais des œufs pourris et des détritus. C'est sûr que c'est pas agréable, mais enfin, les exemples de langue coupée, moi j'en ai pas trouvé. Je dis pas que ça n'a pas existé, mais ce que je veux dire, c'est que en réalité, il y a un delta considérable entre la parole royale, la parole des théologiens, qui est une parole absolument radicale et maximaliste, et la réalité sociale et judiciaire de l'époque. Il n'y a pas d'attente sociale de punition des blasphémateurs, ça n'existe pas. Il y a une volonté politique de punition des blasphémateurs, ce qui n'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose. Et il y a une présence du blasphème dans les discours. C'est ça qui est très intéressant. Dans les discours, alors, juridiques, les discours des théologiens, pourquoi pas. Et puis dans la rue aussi, dans la population ou à la maison. Hein. Ils sont lourds de sens, ces blasphèmes, parce que « jarnis Dieu », c'est « je renie Dieu ». C'est pas rien de dire « je renie Dieu ». On comprend le souci ici de la part des théologiens. On le comprenait moins de la part des autorités royales, mais grâce à vous, Corinne Leveleut, etc., on comprend mieux en quoi le blasphème, c'est un véritable enjeu politique. Et ce qui va nous intéresser désormais dans le cours de l'histoire, c'est de saisir comment cet enjeu politique, ce péché devenu crime aux mains du pouvoir, est une histoire qui se poursuit encore bien après le Moyen-Âge. En 1538, frère Thibault, c'est Clément Jeannequin. Par l'ensemble, ici, là, Clément Jeannequin, c'est beau, c'est vrai, hein, c'est mélodieux, c'est formidable. Après, bah, c'est vrai qu'on entend moins les paroles aujourd'hui parce qu'on a moins l'oreille exercée à ce français, frère Thibault. Ces journées gros et gras tiraient de nuit une garce en chemise. Parce que c'est ça aussi le blasphème, il est partout. Là, nous sommes au XVIe siècle. Le blasphème, vous l'avez dit, Corinne Leveleux, etc., on s'en amuse, on en rit, c'est un objet littéraire également. Le blasphème, vous le trouvez dans les condamnations ? Très peu.
Très peu.
Vous le trouvez dans les ordonnances ? C'est un
beaucoup.
Peu présent, hein, beaucoup. Et puis, on le retrouve beaucoup en littérature.
Beaucoup en littérature, beaucoup, oui, dans les pièces de théâtre, dans les farces, il y en a vraiment partout. On a aussi des textes qui ne sont pas forcément des textes littéraires, qui sont des textes moralistes. Qui là évidemment déplore la situation. Par exemple, je pense à quelqu'un comme Gerson, qui est un grand théologien, aussi un grand pasteur, qui a écrit plusieurs traités contre le blasphème et qui dit mais en fait tout le monde blasphème. Il est un peu désolé. Il s'assure un ton évidemment tout à fait affligé. Donc les femmes, les enfants, évidemment les hommes à la taverne, blasphème. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît très, très répandu et qui ne pose pas de problème particulier parce qu'il y a une forme de connivence, en fait. Le blasphémateur, c'est le voisin, c'est nous. Voilà, il n'y a pas de différence. Et de la même façon que dans certaines communautés juvéniles, vous savez, quand on s'interpelle avec des injures, que je ne vais pas citer parce qu'on est à la radio et que des oreilles chastes nous écoutent, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, ça ne porte pas à conséquence parce que c'est un ami qui va proférer cette injure qui est en fait une marque d'affection. Eh bien, le blasphème est reçu un peu de la même façon dans la communauté chrétienne unifiée du Moyen-Âge. C'est aussi une façon de s'adresser à des saints qu'on va pousser parce que, par exemple, on a été déçus, on leur a demandé quelque chose, ils ont été pas très réactifs, donc on va les insulter. Mais c'est aussi une façon de marquer le lien qu'on a à leur égard. Donc, finalement, tout ça est assez bon enfant, même s'il y a de vrais blasphèmes qui sont assez, pour nous, étonnants et choquants. J'en ai peu trouvé, ceci dans mes sources, mais il y a d'autres sources, notamment à l'étranger, qui sont plus riches en jurons très spectaculaires. Mais voilà, ça ne paraît pas émouvoir les populations outre mesure, en tout cas jusqu'au XVe siècle. Il y a une certaine forme d'acceptation, de tolérance. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de dénonciation. Parce qu'en fait, le système ne fonctionne que s'il y a des dénonciations, on l'a vu tout à l'heure. Pas d'accusation directe. Alors, on a quelques exemples de dénonciations. J'en avais trouvé une qui m'avait pas mal amusée. D'un mari qui n'était pas content parce que son voisin couchait avec sa femme. Donc, on peut concevoir qu'il était un petit peu aigri. Et donc, il avait dit, mais mon voisin est blasphémateur. Il avait utilisé, en fait, la législation royale pour se venger d'un voisin qui l'avait cocufié. Donc voilà, les gens savent très bien que la législation existe et ils en font usage quand ils en ont besoin, mais pas réellement pour venger l'honneur de Dieu. Ça paraît pas du tout dans les textes de l'époque.
Nous avons notre définition théologique avec Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Nous avons ces ordonnances répétées, ordonnances royales, une application qui est bien loin de ce qu'il y a écrit dans les textes, et puis ce juron omniprésent. Malgré tout, et c'est un peu le cas du cocufiage que vous venez d'évoquer, associé à un autre crime, le blasphème, ça sert à renforcer un petit peu ici l'accusation. Le blasphème seul, on l'a bien compris, c'est pas tellement condamné, et même par l'Église, hein, on sent que, allez, on va un peu se faire les gros yeux et puis ça va passer. Alors qu'associé à un autre crime, là, ça devient intéressant.
Ah oui, tout à fait. Ça peut complètement assombrir un dossier. Ça peut, au contraire, alors je pense aux lettres de rémission, par exemple, qui sont une source absolument formidable, qui avait été magnifiquement étudiée par Claude Govard. Dans les lettres de rémission, on a des tas d'exemples de personnes qui sont tuées. Et donc, la personne qui demande la lettre de rémission, qui est donc celui qui a tué l'autre, dit, oui, non, mais ok, j'aurais pas dû, je me suis énervé, j'aurais pas dû, mais il avait blasphémé. Donc, en quelque sorte, comme il a blasphémé, ça m'a énervé, et donc, voilà, ça légitime le passage à l'acte, hein, et l'homicide. Donc, vous voyez, le blasphème est utilisé pour plein d'autres choses, pour colorer, pour disqualifier, pour rendre infâme, mais il est rarement utilisé en tant que tel.
Il est rarement utilisé en tant que tel, mais il est associé, et ça depuis longtemps, à d'autres crimes. Alors, oui. Qui concernent la religion, absolument. L'hérésie par exemple. Parce que l'hérésie, c'est bien compliqué. Être hérétique en soi, par nature même, c'est être blasphémateur.
Absolument. Être hérétique, c'est être blasphémateur, puisque c'est porter sur Dieu d'abord une opinion erronée, et verbaliser cette opinion erronée, et donc cette opinion erronée, une fois qu'elle est verbalisée, devient un blasphème. Donc l'hérétique, par construction, est un blasphémateur. Simplement, il se produit en réalité un changement à la fin du Moyen-Âge. Alors, pour être le plus clair possible, la lutte contre l'hérésie, elle n'a pas attendu la fin du Moyen-Âge pour se manifester. On sait qu'elle existe tout au long du Moyen-Âge. On sait qu'à partir du XIIIe siècle, l'Église se dote d'un instrument particulier qui est le tribunal de l'Inquisition, qui est en fait une procédure particulière appliquée aux hérétiques, enfin un outil spécifique appliqué aux hérétiques, et on a la chance d'avoir conservé d'assez nombreux registres tenus par les inquisiteurs, dans lesquels, les inquisiteurs font mention de blasphème. Alors, c'est pas leur préoccupation première, mais c'est une espèce de sous-produit, de produit dérivé, on dirait aujourd'hui, en fait, de l'hérésie. Alors, ils sont pas condamnés comme blasphémateurs, sont condamnés comme hérétiques, mais en fait, les inquisiteurs vont rechercher plutôt chez ces hérétiques du XIIIe, XIVe siècle, avec qui ils conversent, qui éventuellement les accompagnent dans leur démarche, qui sont les fauteurs d'hérésie, les conventicules, ce genre de choses. Ça intéresse les inquisiteurs, et très très marginalement le blasphème. Donc, on a dans cette première, dans cette répression des XIIIe, XIVe siècle, des mentions de blasphème, mais qui sont plutôt une conséquence de la répression de l'hérésie. Les choses changent assez profondément à partir du XVIe siècle. Alors, ce que je voudrais déjà dire, c'est que dès le XVe siècle, il y a un changement d'ambiance. Un changement d'ambiance dans les textes et un changement d'ambiance aussi dans la manière de concevoir le rôle des blasphémateurs. C'est-à-dire que c'est une époque sombre. Alors, le XIVe aussi, vous allez me dire, mais bon, le XVe, on a des textes de plus en plus nombreux qui attribuent aux blasphémateurs les malheurs des temps. C'était probablement un peu le cas auparavant, mais vraiment, au XVe siècle, le lien est fait de façon systématique entre blasphème et malheur des temps. Il y a un tremblement de terre quelque part, c'est parce qu'il y a eu un blasphème. Il y a un retour de la peste, et Dieu sait s'il y a des retours de peste en Occident jusqu'au XVIIIe siècle, c'est à cause des blasphémateurs. Donc on a ici un lien, qui est un lien très fort, qui est établi entre la production de blasphème et l'éventuelle conséquence collective, hein, pas seulement pour le blasphémateur, c'est-à-dire le blasphémateur, il encourt évidemment une condamnation, soit par le roi, mais de son âme, enfin je veux dire une condamnation dans l'au-delà, il peut le payer de la survie de son âme, mais de plus en plus, on pense que le blasphème peut provoquer des catastrophes collectives. Donc là, on passe du singulier au pluriel. Et ça, c'est très intéressant, cette politisation de la perception du blasphème qui n'était pas forcément aussi présente auparavant. On a vu que le roi s'en est emparé, mais là, les effets du blasphème sont de plus en plus politiques. Il y a un texte que j'aime beaucoup, qui est pris par Charles VI, un peu avant Azincourt. Alors, ça n'a pas bien marché, malheureusement. Mais en fait, le roi se décrit dans sa chapelle. Il est en prière et il dit à Dieu, qu'il demande à Dieu de l'aider. Et il lui dit que si Dieu l'aide, eh bien, il reprendra une nouvelle ordonnance contre les blasphémateurs. D'ailleurs, il en prend une. Enfin, c'est le préambule d'une ordonnance contre les blasphémateurs. Et il dit, je mettrai tout mon zèle à lutter contre les blasphémateurs. Bon voilà, ça n'a pas bien marché, c'est sans doute que la lutte contre le blasphème n'avait pas été suffisante, mais là on voit vraiment ce lien qui est fait entre le devenir, une bataille, hein, entre le devenir du royaume, hein, et le pullulement de blasphème. Donc cette notion de pullulement, elle ne fait que s'affirmer au cours du 15e siècle, avec cette conscience que, encore une fois, les blasphémateurs ont une responsabilité collective dans les malheurs de temps. Et qu'est-ce qui se passe au XVIe siècle? Eh bien, c'est l'irruption de la religion protestante. Et en quoi c'est un événement très important pour notre affaire, pour nos affaires de blasphème? Parce que, précisément, ça rompt la connivence. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on pouvait blasphémer entre amis. On pouvait blasphémer en famille, on pouvait blasphémer entre voisins. Mais désormais, le voisin est peut-être un hérétique. Donc là, on est dans une autre dimension. C'est-à-dire que le blasphème n'est pas porté par un proche, n'est pas porté par un semblable. Il est porté par l'autre de la religion. Et donc, le blasphème devient un possible symptôme de l'hérésie. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est aussi très inquiétant. Et ce nœud se constitue dans les années autour des années 1520, c'est-à-dire à un moment où la monarchie française est un peu lente à réagir par rapport à l'arrivée d'abord du luthéranisme dans le royaume. François Ier n'est pas hyper réactif, il y a sa sœur qui le calme de toute façon, et puis lui-même ne voit pas forcément la réforme d'un mauvais œil. Mais on va avoir une collusion très, très forte et très efficace entre deux institutions majeures de la monarchie française, qui sont le Parlement de Paris, d'une part, et la Faculté de théologie de Paris, d'autre part, qui sont en fait les deux bras armés du conservatisme catholique et qui vont faire du blasphème un outil précoce de lutte contre ce qu'on appelle l'hérésie protestante. Et là, c'est plus la même histoire, et c'est une histoire qui est beaucoup plus sanglante et beaucoup plus difficile que celle que je commençais à vous raconter à propos du Moyen-Âge.
Ah oui, parce qu'on est vraiment passé du blasphème qui était un péché à la préoccupation de pouvoir défendre cette pauvre victime qui n'est jamais présente, que ce soit Dieu ou les saints, à une toute autre histoire. Nous sommes désormais au XVIe siècle, et moi je vous propose une archive d'un temps où la radio-télédiffusion française appelait les auditeurs, les auditrices, citoyens, citoyennes.
Citoyennes et citoyens, nous vous convions à participer à cette œuvre de réparation et de vérité. N'hésitons pas à le proclamer. Étienne Dolet fut une grande et noble figure de l'humanité. Quand on pense qu'il est mort à 37 ans, ayant passé plus de 5 années en prison, qu'il était né de parents modestes et les perdit tout jeune encore, qu'il ne connut guère que des déboires, on ne peut s'empêcher de l'admirer. Toujours disposé à encourager les causes les plus justes, nous le voyons au mépris de ses intérêts personnels approuver les ouvriers imprimeurs de Lyon qui font grève pour obtenir de meilleures conditions de travail. Il fait tous les métiers. Il donne des leçons, il est correcteur d'imprimerie. Il prête ses presses pour l'édition clandestine d'œuvres réputées subversives. On le lui reprochera lors de son procès, comme on lui reprochera de ne pas aller à la messe, de faire gras pendant le carême, d'avoir osé critiquer, impardonnable audace, le culte des saints, la croyance à l'enfer et au paradis. D'autre part, il traduisit Cicéron, Lucrèce, Térence et beaucoup d'autres philosophes, littérateurs ou orateurs de l'Antiquité, sans parler bien entendu de ses œuvres personnelles et de ce livre, Le Second Enfer, qui le fit condamner à mort.
Étienne Delay, présenté en 1955 dans l'émission « Divers aspects de la pensée contemporaine ». Étienne Delay, pendu au milieu du XVIe siècle, 1546, pour, alors, pourquoi? Pour hérésie, pour athéisme, pour blasphème aussi?
Pour exécrable blasphème.
Exécrable
pour
blasphème.
Pour exécrable blasphème. Tout à fait, c'est une des victimes les plus célèbres, en fait, hein, de cette, littéralement, de cette chasse aux sorcières, c'est pas des sorcières en l'occurrence, chasse aux blasphémateurs, qui se déchaînent au cours du XVIe siècle, et qui est en fait le résultat de cette nouvelle configuration qui n'était pas celle du Moyen-Âge, qui est celle du surgissement, encore une fois, d'une altérité confessionnelle. Il faut bien comprendre, encore une fois, que ça change complètement la donne. Et autant au XIIIe, XIVe siècle, le blasphème apparaissait comme une espèce de sous-produit de l'hérésie, là, il devient en quelque sorte le symptôme de l'hérésie. Donc on va chercher quelqu'un qui va tenir des propos à l'égard de la Vierge, hein, c'est un premier symptôme inquiétant. Si on met en cause l'Immaculée Conception, ça c'est vraiment un signe d'identification. Et puis bien sûr, ce qui est surtout poursuivi et réprimé, ce sont ce qu'on appelle les blasphèmes sacramentaires, c'est-à-dire la mise en cause de la messe, hein, donc de l'Eucharistie, dont évidemment les protestants se moquaient. Donc il y a ici une répression, je dirais, presque périphérique de l'hérésie par le blasphème. Alors, par la suite, on aura une répression ouverte de l'hérésie pour l'hérésie. Mais dans un premier temps, hein, dans les années, en gros, 1520-1550, il y a vraiment une utilisation du blasphème pour lutter contre l'hérésie à un moment où la monarchie française n'a pas encore complètement franchi le pas. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il existe à l'époque un inquisiteur général en France. Mais c'est pas lui qui s'en saisit de l'affaire, c'est vraiment les parlements, notamment le Parlement de Paris, qui est vraiment en tête de gondole, hein, dans cette histoire, qui prend vraiment la tête de la croisade, hein, contre les blasphémateurs. Et on a des arrêts, d'abord isolés, puis de plus en plus nombreux, dans les registres du Parlement, qui montrent le déchaînement de cette violence, hein, contre les blasphémateurs. Alors ça touche parfois un pauvre type, hein, un ermite en 1523 qui est brûlé en place Maubert, et puis des gens beaucoup plus de la bonne société, hein, qui sont brûlés parce que on considère que ce sont des hérétiques potentiels. Alors probablement adhérents du luthéranisme, mais en tout cas ils sont brûlés comme blasphémateurs. Et il y a même eu à partir du règne d'Henri II. Henri II a été lui-même un des rois les plus impitoyables dans ce domaine. On a la création d'une chambre spécifique au sein du Parlement de Paris pendant quelques années, qui a reçu le nom éloquent de chambre ardente, qui s'est consacrée exclusivement à la lutte contre les hérétiques et les blasphémateurs, les deux étant étroitement liés. Donc il y a une judiciarisation de la lutte contre l'hérésie qui ensuite débouchera dans une phase ultérieure sur, malheureusement, des guerres civiles encore plus épouvantables que la simple poursuite judiciaire de l'hérésie du blasphème. Mais ça change complètement la donne. Et ce que je voulais dire, et ce qui est très troublant, c'est que en fait, en même temps qu'on brûle des blasphémateurs dits hérétiques ou sacramentaires, on continue à trouver, dans les juridictions de premier niveau, la mise en œuvre de la législation classique contre les blasphémateurs ordinaires. C'est-à-dire que vous avez toujours, alors peu, parce que j'ai indiqué, c'est assez pas fréquent, mais dans les registres de juridiction, vous avez un tel à payer tant de sous pour blasphème. Donc, au sein de communautés qui apparaissent comme des communautés unies, on continue à traiter le blasphème de façon relativement bénigne, hein, comme un errement langagier finalement assez peu grave. Et en même temps, eh ben, on brûle des blasphémateurs considérés comme des hérétiques.
Et on voit vraiment là, le blasphème, c'est ça le signe de l'hérésie. On condamne pour blasphème, comme ça on se débarrasse de l'hérétique. Et puis, c'est cette période terrible du XVIe siècle des guerres de religion qui prennent fin malgré tout. Donc on peut se dire, une fois les guerres de religion passées, c'en est terminé de cette accusation de l'hérésie à travers le blasphème. Eh ben non.
L'autre jour, inspiré d'une divine flamme, j'entrais dedans un temple où tout religieux, examinant de près mes actes vicieux, un repentir profond fait soupirer mon âme. Tandis qu'à mon secours tous les dieux je réclame, je vois venir Phyllis. Quand j'aperçus ses yeux, je m'écriai tout haut, « Ce sont ici mes dieux, ce temple et cet autel appartient à madame. » Les dieux, injuriés de ce crime d'amour, conspirent par vengeance à me ravir le jour.
mais que sans plus tarder leurs flammes me confondent. Ô mort, quand tu voudras, je suis prêt à partir, car je suis assuré que je mourrai martyr pour avoir adoré le plus bel œil du monde. »
Quelques jours après la publication de ce sonnet, on pouvait lire dans le Mercure de France de juin 1619. Au mois de mai, sur ce que l'on fit entendre au roi que le poète Théophile avait fait des vers indignes d'un chrétien, tant en croyance qu'en saleté, le chevalier Duguay lui enjoignit de la part de sa majesté de vider dans les 24 heures la France sous peine de vie.
Nous venons d'entendre Paul Abraham qui est romancier, qui est metteur en scène, c'est le théâtre de l'Odéon. Et puis juste avant, Théophile de Viau, il commentait Théophile de Viau, début du XVIIe siècle. On est après les guerres de religion et pourtant il y a cette condamnation. De quoi s'agit-il ?
Là on est sur la condamnation du libertinage. Le blasphème va servir aussi à ça. On aura d'autres exemples, je pense que vous en parlerez demain au XVIIIe siècle, hein, malheureux. Une condamnation, alors pour le coup, à mort. Théophile de Viau s'en est finalement sorti en se rétractant. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le blasphème sert à plein de choses, hein, et pas seulement à lutter contre des paroles ouvertement irreligieuses. Là, en l'occurrence, le sonnet qu'on a entendu apparaît relativement inoffensif aujourd'hui. Donc, pourquoi ça marche comme ça ? Parce qu'en fait, et ça revient à la question que vous posiez au début, qu'est-ce que c'est que le blasphème ? On ne sait pas. Et précisément, cette absence de sens très fortement structuré de l'infraction fait qu'elle est disponible pour toutes sortes de criminalisations. Donc, c'est une espèce de couteau suisse, en fait, le blasphème, qui sert, quand on en a besoin, dans un contexte difficile, ou pour attaquer celui qui est considéré comme ne partageant pas la même religion que vous. Parce que j'évoquais tout à l'heure la connivence au sein d'un groupe d'amis qui s'insultent. Si celui qui vous insulte, vous ne le connaissez pas, ce n'est pas un de vos amis, l'insulte, là, prend tout son sens. Eh bien, c'est la même chose s'agissant du blasphème. S'il ne fait pas partie de votre communauté, le blasphémateur est un danger que l'on doit éradiquer.
C'est d'une clarté. Merci vivement à Corinne Leveleux-Texeira pour cette explication sur la longue durée, comment ce péché est devenu un crime. Il y a la parole interdite, le blasphème dans la France médiévale, hein, que vous avez fait paraître du péché au crime. Et puis, signaler aussi que vous êtes co-autrice des espaces de la puissance, stratégie et marqueur de l'impérialité. Parce que c'est toute une question de pouvoir qui nous a intéressés aujourd'hui. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci beaucoup.
C'était un moine appelé Nicolas qui aimait une dame, la dame ne l'aimait pas. Elle lui dit: mon bel ami, mon bel ami, la 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 la, viens ce soir sur les 8 heures, mon mari n'y sera pas. Viens ce soir sur les 8 heures, mon mari n'y sera pas.
Fallait bien terminer avec le moine Nicolas, cette histoire du blasphème médiéval. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Élise Leu, émission préparée par Chloé Rouillon, Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Mayouen Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire est à retrouver, cette émission et toutes les précédentes, en podcast sur notre site franceculture.fr et bien sûr sur l'application Radio France, et allez sur le site du cours de l'histoire, donc franceculture.fr, avec toutes les références bibliographiques utilisées aujourd'hui.